bonsoir. Nous voici à nouveau avec vous pour une émission des livres pour dire, une émission de l'AISBL Scripta Linea, en français collectif d'écrit, consacrée aujourd'hui au collectif Les Sept Mercelaires d'Ixelles à Bruxelles. Alors, à la technique, Tamara Frunza et Hannibal. Autour de la table, nous accueillons Laurence Bastin, Sophie Hustings, Patricia Lacourte, ainsi que Tatiana Saint-Lay, et au micro pour vous servir, Sophie Cauderlier. Bonsoir à toutes.
Bonsoir.
Alors, vous êtes donc du collectif, vous faites partie du collectif Les Sept Mercelaires, mais d'où vient ce nom? D'où vous êtes venu ce nom?
Eh bien, c'est venu tout simplement de ce que nous avions des cinéphiles, et la bibliothèque d'Ixelles se trouve située rue Mercelis. Rue Mercelis, alors on joue un peu avec les mots, Mercelis, mercenaire, nous étions sept, donc le nom était trouvé, les sept mercenaires, et
si jamais il y avait d'autres personnes qui venaient, eh bien ce serait les sept mercenaires et compagnie, tout simplement.
Et donc vous êtes sept, aujourd'hui vous n'êtes pas sept autour de la table.
Ben non, tout le monde n'était pas disponible.
Non, et en fait, c'était sept personnes l'année passée, et lors de la saison numéro 2, donc de 2016-2017, on s'est retrouvés à 8, et puis même peut-être 8,5, parce qu'il y a les enfants de l'une ou de l'autre qui sont venus participer à l'aventure de temps en temps, donc voilà.
D'accord. Et vous venez toutes d'Ixelles?
Non, moi je suis une dissidente.
Tatiana.
Je suis à la frontière de Ixelles et de Bruxelles.
Voilà. Mais toutes des femmes.
Toutes des femmes.
Jusqu'à preuve du contraire, oui.
Et c'est une volonté d'exclure les hommes de votre collectif?
Non.
Bah, j'aime pas le mot exclure, moi. Enfin, je veux dire, on n'a exclu personne. D'ailleurs, le photographe qui va faire, qui va illustrer le recueil, c'est un homme. Voilà, et donc moi j'avais même proposé à des amis hommes de venir nous rejoindre, même chose je pense pour Sophie, ils ne sont pas venus, donc on n'exclut absolument pas, on les adore.
C'est ça, c'est le hasard.
Venez.
En fait, on aurait été plutôt enchantés d'accueillir des hommes, mais en même temps, moi je me pose la question de savoir si le thème qui était celui choisi cette année, qui est la femme sauvage, je ne suis pas certaine que avec la participation d'hommes, le thème aurait été celui-là. Et quand bien même, avec ce thème-là, ça aurait été aussi très intéressant de voir comment l'évolution de l'équipe aurait abordé ce thème. Mm-hmm. Et peut-être que nos textes n'auraient pas été ceux que nous avons écrits s'il y avait eu la présence
d'une présence masculine. D'ailleurs, on peut rappeler quand même que la charte, parce qu'il existe une charte au collectif d'écrit, et que cette charte, dans cette charte, il n'y a bien sûr aucune exclusion qui est admise. Je vous lis l'article 2. Or, les conditions reprises dans l'article 1, c'est-à-dire que le collectif d'écrit rassemble des personnes qui aiment écrire et veulent explorer ensemble un sujet de société dans une dynamique constructive et inclusive. Donc, hors ces conditions, aucune exclusion n'est justifié, ni âge, sexe, orientation sexuelle, conviction philosophique, conditions socio-économiques, statut social, état civil, etc., etc. Bref, donc nous allons aborder aujourd'hui le thème que vous avez traité dans votre saison 2 du collectif des 7 mercelaires. Et justement, le 8 mars, mercredi dernier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et vous en avez profité pour présenter votre dernière compilation de textes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Femmes sauvages. Alors, vous revendiquez le droit aux femmes d'être sauvages, c'est ça?
Oui.
Tout à fait. Et je dirais même plus d'être sauvage, mais ce qu'on a appris à travers le collectif, c'est qu'on s'est découvert sauvage chacune à notre manière et de différentes façons. Donc voilà, de vraiment explorer la part sauvage sous toutes ses formes. Et les textes étaient assez, enfin voilà, montraient vraiment des parts différentes, du côté sauvage.
On en saura plus tout à l'heure.
Voilà.
Et donc on verra plus tard hein, comment vous avez traité ces thèmes dans tous vos textes et que vous avez choisi de nous dire, de nous lire tout à l'heure. Mais comment justement avez-vous choisi ce thème ? Ça fait peut-être déjà un peu longtemps maintenant. Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez fait pour choisir le thème ?
Inducteur d'image. Hein,
oui. En fait, oui, on s'est réunis au départ à plusieurs reprises. Moi qui n'avais pas été présente lors de la première saison, je ne savais pas très bien où on allait. C'était un peu à l'aveugle. Et puis il y a eu une idée de que chacune apporte des images ou des photos. Et on a déposé ces images, ces photos sur la table. Alors là-dessus, ces représentations donnaient lieu à interprétations, à idées. Et alors on a écrit nos idées et puis c'est venu comme ça, comme des pièces d'un puzzle qui n'avaient pas de représentation bien définie au départ. Et puis petit à petit, tout ça s'est rassemblé autour d'une ou plusieurs idées. Et puis, c'est l'idée qui a convenu à l'ensemble de l'équipe.
On a établi des critères aussi, je me souviens. Il y avait des critères qui avaient été établis par rapport, justement, quels critères on voulait pour le choix de ce thème. Et entre autres, je me souviens qu'on voulait quelque chose de pas trop vague, d'assez précis, de pas trop grave non plus. On avait quand même envie d'une certaine légèreté par rapport à l'état actuel du monde. C'était une volonté commune. Enfin, voilà, ça, c'est les souvenirs que j'en ai. Mais c'est vrai que les critères et puis le choix des groupes d'images et de mots ont aidé à... Enfin, c'est venu presque naturellement. À un moment donné, ça vient presque naturellement.
Et ça s'est fait en combien de temps, en combien de jours Est-ce que ça s'est fait en une séance
non, ou non, non, deux, non. Trois réunions, je pense.
Deux, trois séances.
Oui, oui. Et puis c'est vrai que ça s'est, comme disait Patricia, ça s'est construit vraiment en étapes, avec des images, avec des phrases, des regroupements. On s'est posé
avec des résistances.
Voilà. et avec des thèmes qui devenaient transversaux aussi. On a beaucoup. Il y avait des thèmes qui revenaient. Il y en avait qui ont fait débat en disant non, ça, pas de cette façon-là. Et donc, oui, on a quand même mis. Mais ça, c'était chouette aussi. C'était l'occasion d'apprendre à se connaître. Bon, il y avait déjà les sets d'avant. Et puis, Patricia et moi, on s'est rajoutés. Donc, c'était intéressant d'un peu apprendre à se connaître.
Il y a un homme qui est parti. Hein, on n'a pas exclu, il est parti tout seul hein, du précédent. Donc.
Voilà.
Donc, c'est ça, vous ne connaissiez pas au départ, au départ du collectif, vous ne connaissiez pas du tout.
Pas du tout. Moi, j'avais entendu parler de l'existence d'un collectif d'écrit à la bibliothèque. Et donc, on a pris les premières séances en route avec Patricia. Il y en avait aussi une autre, enfin deux autres, je pense.
Non, il y avait deux personnes en plus.
Il y avait deux autres personnes. Et puis, voilà, on a bien accroché. Et c'est vrai que toutes ces séances, justement, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. C'était de réfléchir ensemble sur quoi on avait envie de travailler, quel thème on avait envie de choisir.
Et donc l'information de l'existence du collectif, c'était la fréquentation de la bibliothèque qui vous a mise au courant ou comment ça s'est passé
Je pense qu'effectivement j'avais vu ça sur les activités de la bibliothèque et on m'avait dit oui, mais là le projet est déjà en cours, donc peut-être l'année prochaine, et donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Mmh. Et voilà, c'est revenu et c'était le bon moment et donc on a eu la joie de pouvoir y participer cette fois-ci et de pouvoir découvrir le concept. Avec les sept mercenaires. Et donc, nous sommes la compagnie.
Eh bien, nous allons continuer en écoutant justement l'édito de votre compilation. Édito que vous avez écrite toutes ensemble, je suppose.
Oui.
Voilà, on vous écoute.
C'était une séance très amusante, d'ailleurs.
On a fait par morceaux. Donc, donc voilà, donc on va essayer de continuer à vous donner le rendu par morceaux. Comme dans un très vieux rock'n'roll, un concert harmonieux de voix non accordées. Qui chante où vont les amours perdus ? Trouvez-le là pour accorder nos voix. Toutes ont leurs histoires, échos proches ou lointains de leurs combats, leurs convictions, leurs folies aussi, surtout. Douce ou bergère, elle se décline au féminin. Mais n'est-elle pas plus salvatrice que la raison ?
Pom 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 pom. Mais qui sont ces musiciennes ? Venez, venez, approchez, tendez l'oreille. Qu'entendez-vous ? Au départ, trouvez un thème. Nous perdre pour nous rassembler. Frissons, rictus, sourires, cris, pleurs, énergie vitale, brute, libre, dans le vent du temps qui s'exprime dans nos errances paresseuses, où nous dévisons sur rien, sur tout, reprenant le fil suspendu entre nous. Chacune a fait cadeau à l'autre, aux autres de son art de la fugue, porté par son instrument intime et émotionnel.
Dans un tourbillon infini, voici qu'avance une fanfare de vie, d'énergie, d'amour qui éclate en un kaléidoscope. Crachat de couleurs dans la lampe de nos imaginations vagabondes. Non, point besoin de chef d'orchestre. Ici, juste le rythme, voilà le maître à bord.
Mais qui sont ces musiciennes ?
Déchirez les partitions, envoler les notes, hurler à la vie, et enfin, jouir des mots.
Merci, et puis pour digérer cette belle lecture, nous allons écouter un choix musical qui est une chanson de Barbara et qui s'appelle « Les voyages ».
Ah, les voyages, aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages, qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins, mon Dieu, ah, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images. Voyage, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages, et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout. Ah, jeunes gens, sachez profiter de vos 20 ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Ah, les voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvre au bonheur, mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Les voyages, tourne une page, oh les voyages,
petit commentaire sur cette chanson ?
Oui, en fait, j'affectionne particulièrement cette chanson de Barbara et je la trouvais bien appropriée à l'émission et à notre collectif parce que voyager, ça nourrit l'imagination, c'est aussi la rencontre avec l'autre, la reconnaissance de l'altérité et... son acceptation pleine et entière, et puis écrire, c'est aussi une manière de voyager.
Tout à fait. Ben, nous allons passer maintenant à votre présentation publique. Je n'étais malheureusement pas là le 8 mars dernier pour vous écouter, mais j'ai lu ces mots sur le site des collectifs d'écrits, notamment « Merci pour vos univers en partage et pour avoir animé sous vos plumes ces femmes en révolte, en résistance, en rupture, ces femmes esselées, isolées ou solitaires. » D'abord, félicitations donc pour tous ces commentaires très positifs et enthousiastes. On peut voir sur le site aussi de Scriptalinéa des photos de la soirée. Ça avait l'air d'être une soirée bien animée.
Oui, en fait, le public a été très bienveillant, j'ai trouvé. Enfin, je crois que tout le monde a trouvé, toute l'équipe a trouvé ça, le public.
Moi, je les avais payés. Hein.
Participatif aussi.
Oui, en plus, nous l'avons surpris, je trouve. Enfin, on a senti le public surpris par nos textes, mais aussi tantôt amusé, tantôt ému, parce que les textes sont parfois très poignants. Et puis... c'était une manière aussi pour le public d'être confronté au thème que nous avions nous avions choisi.
Ça se passait où ?
Ça se passait dans la bibliothèque. Et en fait, on a eu la chance quelque part qu'une fois que nos textes étaient faits, étaient réalisés, on s'est dit on va organiser la lecture. Et puis on a commencé à réfléchir en se disant mais pourquoi pas carrément faire des petites mises en scène de ces lectures. Et donc, c'est vrai que du coup, moi, j'ai demandé l'aide de mon copain qui est metteur en scène, qui est venu un petit peu réfléchir avec nous. Et on avait toutes des idées assez sympas et pas tellement compliquées à mettre en place pour un petit peu mettre des dimensions supplémentaires au texte. Et ce qui a été très chouette, c'est qu'on a du coup, on a baladé tout le public dans les différents endroits de la bibliothèque. Et donc chaque texte a été plus ou moins lu à un endroit différent, avec une atmosphère un peu différente, un peu adaptée, avec parfois de la déco, des objets, qui pouvaient plonger vraiment le public dans les différentes ambiances et les différentes sphères des textes.
Mm-hmm. Oui, je voulais préciser aussi que l'aide apportée par Ahmed, le compagnon de Sophie, était très très précieuse et nous a apporté aussi un éclairage sur nos textes, et c'était le premier pratiquement extérieur aux sept mercenaires qui a pris connaissance de la teneur de ce que nous avions écrit, et donc ça c'était aussi très très enrichissant pour nous, et les conseils qu'il nous a donnés pour cette mise en scène étaient très judicieux et très bien.
J'imagine que ça a mis du relief aussi dans vos textes, puisque au départ, si c'était lu, puis dit, et puis de le mettre en scène, de faire une petite...
Moi, je tiens quand même à souligner qu'on a intégré un deuxième homme, là. On est déjà au deuxième homme. Hein. je veux dire, comme on aime le cinéma, il y en aura un troisième aussi, mais... Oui, c'est vrai qu'Amet, il nous a mis à l'aise par rapport au fait d'imaginer faire ça devant un public, et que voilà, les idées étaient tellement simples et tellement facilement réalisables que c'était pas du tout, pas coincant en tout cas.
Oui, et je pense que ce qui a été agréable aussi pour le public, c'est que de voir se taper entre guillemets des textes pendant une heure d'affilée, sans bouger, surtout que certains endroits étaient un peu exigus, donc il n'y avait pas des chaises pour tout le monde. Finalement, devoir se balader, ça donnait aussi un certain rythme, une respiration entre des textes qui étaient parfois très différents.
Mmh. Oui. Et ce qui était chouette aussi, je trouvais, c'est que il y a eu différentes phases. Il y a eu aussi d'abord nos idées de base, et c'était intéressant de se poser la question, de se dire moi, comment est-ce que je vois mon texte en image, ou comment est-ce que j'ai envie de le mettre en relief. Du coup, ça donne aussi une autre dimension que de le lire juste entre nous, ou juste de le lire comme ça.
Moi, ma petite fille, ça m'a fort émue, parce que c'était quand même quelque chose qui est venu naturellement, où elle a fait la voix d'un des petits personnages de mon texte, et donc c'était une complicité assez émouvante, parce qu'elle est toute jeune, elle a 10 ans, et donc, je ne savais pas si elle allait oser le faire, et elle l'a fait. Donc, c'est un joli cadeau pour une maman. Oui.
Oui, ce que je voulais aussi ajouter par rapport à la lecture à voix haute, c'est que le fait de passer par l'oralité, ça a un côté sensuel également. Le timbre de nos voix ont donné justement ce relief au texte, et c'est une manière de redécouvrir nos textes à travers l'atmosphère qui s'établit entre les lectrices et le public également. C'est un grand moment de partage. Enfin, c'est comme ça que nous l'avons ressenti. Et nous avons offert nos textes au public, et le public nous a fait cadeau de son écoute.
Eh bien, pour les auditrices et auditeurs qui, pour la plupart, je suppose, n'étaient pas présents non plus à votre lecture publique, vous offrez une brève séance de rattrapage ici, qui ne compensera pas, bien sûr, l'ambiance tangible de la soirée, mais qui donnera certainement envie de vous lire, hein, qui se lance dans la lecture de premier texte.
Eh bien,
Tatiana,
c'est moi.
On y va.
Mais je ne donne pas le texte en entier parce qu'il est fort long et le temps nous est quand même compté. Hein. Donc il y aura le début et la fin.
Très bien.
Voilà. Et tant pis pour le milieu, il faudra prendre la compile. Au crépuscule de ma vie, je pense à toi, ma lointaine aïeule. Pendant que ton corps, ligoté au poteau du supplice, se tordait sous les flammes et devenait cendre, ton savoir patiemment accumulé au fil des saisons, des années, devenait fumée. Tout ce que tu savais, tu aurais voulu le transmettre, mais c'était un savoir interdit, dangereux, et tu étais seule. Ma douce rebelle, je voudrais te ressembler, avoir ton courage et ta bonté. J'aimerais trouver l'herbe magique qui pourrait extirper du cœur des hommes l'égoïsme, la cupidité, le goût du pouvoir. Inutile de courir les bois à sa recherche, elle n'existe pas. Parfois, quand je vois toutes les horreurs et les injustices qui s'abattent sur le monde, comme toi, j'ai envie de hurler à m'en déchirer la gorge. Pas de plante miraculeuse à ma portée, seulement un clavier d'ordinateur qui n'a ni parfum ni douceur, et je clique. Pour que cesse une guerre imbécile, elles le sont toutes, pour que des humains ne soient plus humiliés, exploités, pour que restent inviolés des paysages que la Terre a mis des millions d'années à façonner si beaux, pour que cesse l'extinction de la faune et de la flore, je clique. Et pour, je clique. Tu courais les bois et les champs avec tes potions souveraines, et tu es morte dans les flammes. Les temps ont changé. Je mourrai dans un lit d'hôpital et je reste devant mon ordinateur, la tête vigilante et le doigt agile. La révolte et l'indignation sont toujours là et c'est bien ce qui nous unit au-delà du temps et de l'espace.
Merci.
Toujours le même frisson chez moi.
Effectivement. Un petit mot de réaction ou de commentaire ? Par rapport au texte.
J'ai beaucoup de mal à ne pas être émue quand je lis ça, parce que je sais pas, c'est quelque chose qui vient du fond de moi. J'ai accouché difficilement et c'est vraiment moi tout entière dans ce texte. Voilà.
Mais c'est probablement ça qui nous a émus. Et moi, mon fils de 18 ans était là à la présentation publique et c'est le texte de Tatiana qui l'a plus frappé. Il m'a dit, elle m'a fait pleurer, maman, vraiment. Ah, il te l'a dit aussi, je pense. Oui. Hein, ouais. Donc voilà.
Merci. Un autre texte, peut-être, avant une petite pause musicale. Qui
Bien.
Se lance ?
Mais je vais me lancer après Tatiana. Moi, j'ai choisi non pas d'écrire un récit linéaire, mais comme l'Est m'attire. Le Nord, enfin céleste pour moi, mon Nord à moi, céleste. Et donc j'ai choisi d'écrire quelques haïkus sur le thème de la femme sauvage. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est un haïku, c'est une forme japonaise de poésie. Il se compose de trois lignes très brèves et c'est plus un instantané du temps présent qui traduit une émotion, un sentiment ou qui dépeint simplement un moment d'une saison. Alors, il y a les haïkus anarchiste puriste qui respecte les règles que je ne vais pas décrire ici, parce que moi, je n'ai pas respecté les règles du haïku. Et moi, pour les petits textes que j'ai rédigés, je me suis inspirée donc de cette forme sans respecter les règles, et je m'en suis écartée car j'ai voulu coller plutôt plus au thème qu'au principe. Et donc, pour moi, c'était un plaisir, cet exercice. Je me suis amusée, c'était un jeu de sonorité, un jeu pour aller au plus près du ressenti avec une économie de mots. Et le haïku, c'est comme une photographie, un instantané de l'âme qui se dévoile et qui ensuite disparaît en un instant, puisque c'est très court. Et c'est un moment d'intimité partagée que l'on offre à soi et que l'on offre au lecteur ou à l'auditeur dans le cadre du 8 mars. Alors,
donc on t'écoute, Patricia.
Je vais en citer quelques-uns. Dans ma nombreuse production. Bon, alors, il y a Laurence qui réclame Mona, donc je vais lire le haïku concernant Mona. Il faut juste que je le trouve parce que je ne le connais pas par cœur. Alors, un pinceau polisson la caresse sous la toile et Mona sourit. Alors, un autre... ça appellera la plage sonore suivante. Suspendue au fil du vent, Pénélope tisse sa toile, sa voile et balance sa vertu. Né petit pois, sous les doigts d'une pensée, je deviens courge musquée. Un autre encore, dans sa garde-robe, Ève n'a trouvé qu'une pomme pour tromper l'ennui. Et alors, encore un autre dans le même registre. Elle a soif, elle a faim, lui s'endort repu. Voilà un joli couple. Allez, c'est le printemps, alors un printanier. Quand un bourgeon d'août... doit-il ou non éclore ? C'est trop tôt encore. Et puis, un coquin peut-être. De la soie pourtant si douce, un téton têtu s'est enfoui. Une main l'a rattrapé. Et enfin, un peu vindicatif, armé d'un crayon, avec mon âme pour bataillon, j'entre seul en transe. Voilà.
Merci. Nous allons méditer tout cela avec Pénélope de Georges Brassens, mais chanté par Isabelle Anténa.
Sur tes ciel ne t'en tienne rigueur. Il n'y a vraiment pas là de quoi fouetter un cœur qui bat la campagne et galope. C'est la faute commune, c'est le péché.
Alors, un petit commentaire sur la chanson ou les haïkus.
Bon, moi, c'est un peu comme Patricia avec Barbara et les voyages. Enfin, pour moi, Brassens, c'est mon enfant, c'est mon père, c'est toute ces chansons un peu existentialistes comme ça. Et Pénélope a été repris donc par Isabelle Anténa. Isabelle Anténa, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté quand j'avais une vingtaine d'années. Et c'était vraiment une chanteuse belge avec une voix très chaude et particulière et voilà un univers. Et cette chanson, elle est magnifique parce que ça parle vraiment de la femme qui enfin voilà, de l'indépendance de la femme. Hein, c'est voilà. Je sais pas quoi dire d'autre parce que il y a beaucoup de respect chez Brassens pour la femme en général et il a beaucoup prôné aussi la liberté des femmes et leur côté de laisser s'exprimer ce qu'il y a de plus sauvage et de plus fou chez la femme quoi, hein. Voilà, mm-hmm. On a beaucoup parlé de ça.
Moi j'avais aussi envie de rebondir sur les haïkus de Patricia parce que comme on était en train de l'évoquer, on pensait à son effeuillage de haïku durant la lecture, et c'est vrai que bah, du coup voilà l'association entre la sensualité des mots et Patricia, j'avais envie de l'évoquer parce que c'est vrai que on peut aussi voir un peu comme Tatiana l'expliquait tout à l'heure que vraiment c'est des textes qui nous sont profonds et qui disent quelque chose de ce qu'on est aussi et à cette occasion nous les autres on peut se rendre compte aussi avoir je trouve que j'ai vraiment eu la chance d'être à une place privilégiée pour apprendre à connaître des personnes que je n'aurais jamais rencontrées et donc voilà c'est assez fabuleux comme expérience.
Et tu peux expliquer avec des mots pour que les auditeurs voient les feuillages dont tu parlais c'est-à-dire oui, de la lecture publique donc
voilà tout à fait ben, en fait donc Patricia était assise un peu de manière désinvolte et sensuelle sur un bureau avec les jambes croisées au départ et donc les haïkus étaient notés sur des feuilles des grandes feuilles ou alors il y avait des dessins simplement et donc au fur et à mesure où elle les récitait où elle les lisait elle jetait les feuilles par terre ou les laissait simplement se déposer par terre dans des gestes un peu théâtrales ou un peu sensuels. Donc voilà, ça donnait cette image-là.
Mm-hmm. Ben, je vous propose d'offrir aux auditrices et auditeurs d'autres extraits de vos textes. Donc peut-être Laurence.
Oui. Je l'ai rencontrée dans un temps de chaos extrême. J'étais partie marauder des pommes dans un verger, implanté au cœur d'un parc intemporel qui abritait pêle-mêle statues de bois, champignons et têtes de guerriers, un potager, une roseraie, des étangs et même la maison de Baba Yaga. J'avais choisi un jour de grand vent et de pluie, une fin d'après-midi plombée par une grisaille entêtante qui avait fini par éclater en grosses gouttes sales. Perché dans l'arbre, je me griffais pour accéder aux branches garnies des fruits les plus charnus, vierges de toute attaque d'oiseaux et de toute souillure d'insectes. Certaines pommes étaient coriaces à cueillir et le déséquilibre de ma position ne me rendait pas la tâche aisée. Je remplis les poches et la capuche de mon imperméable, à les faire craquer, et avant de descendre, secouai l'arbre à grands coups pour faire tomber les fruits qui finiraient en compote. Après avoir plongé dans la mare à la poursuite des canards, son jeu favori du samedi, ma chienne finit son tour de repérage et revint de son expédition dans un état de propreté plus que douteux. La bête, intriguée par mon agitation, attendit sagement au pied du pommier que je veuille bien entamer la descente, indifférente à la pluie d'astéroïdes acidulés qui s'abattait à ses pattes. Lorsque je mis le pied à terre, je la vis aux aguets, oreilles et pattes en l'air. Puis, elle plongea nerveusement sa truffe dans les hautes herbes et en ressortit avec dans sa gueule une proie lilliputienne qui gigotait en tous sens et lançait des cris aigus à en déchirer les tympans. Je la sommai de lâcher cette drôle de créature souillée par la boue des hautes herbes. Celle-ci avait entre-temps arrêté ses soubresauts et reposait molle et froide dans ma main. Il me fallut prendre mes lunettes pour découvrir de quoi il s'agissait. Quelle ne fut pas ma stupeur lorsque j'aperçus une espèce de réduction de femme, curieux mélange, ni humain, ni elfique, totalement inconsciente. Voilà.
On pouvait voir le petit film se dérouler sous nos yeux, presque, avec cette lecture.
Oui, c'est un peu ma manière d'écrire. Je me raconte des histoires et puis tout d'un coup, elles arrivent dans mon bic.
Mmh. Une belle description, bien visuelle. Mmh. Merci, Laurence. Peut-être Sophie.
Oui. Si vous voulez enchaîner tout de suite, c'est un autre style. Je baisse les yeux. La bouilloire en métal oxydé dégouline dans l'évier. Je coupe l'eau en serrant fort le robinet. Une allumette, le gaz. Les flammes bleues crépitent sous la siffleuse argentée. Il faudrait que je leur dise. Mais comment ? Non, désolée, je suis partie. Je me suis échappée. Je veux me glisser dans la surface du temps, m'y frotter, me piquer à moi-même. Cessez de me déranger, je ne suis plus des vôtres. J'ai quitté la société, celle qui vous mue en tout cas. Voilà que je suis partie, sourde à vos intempestations. Non, je ne suis plus un cri béant. À présent, je baigne dans une mer calme, fugitive, ourlée. Je n'en veux plus de cette vie, vous comprenez ? Il n'y a pas de place pour moi. Moi, la boueuse, celle des tréfonds. Moi, celle qui gronde à l'intérieur, celle qui réclame son dû et maugré, grince des dents tant qu'elle n'aura pas obtenu sa ration. Moi, celle qui a décidé d'élever des murs de solitude et de s'entortiller dans la douce couverture du silence. Attention, l'eau déborde, tu vas te brûler. Me brûler. Tes ongles s'enfoncent dans ma chair jusqu'au sang. Je sens les veines de mon cou palpiter sous tes doigts. Ma nuque hurle de douleur. Mais aucun son ne peut sortir de ma gorge. Je lève les yeux dans une vaine reprise de souffle. Tes yeux sont exorbités, parcourus de petites veines rouges. Tu es si proche. Je sens ton odeur musquée de terre et de cigares. Tu ne me vois plus. Tu erres dans une grande plaine chevauchant les cavaliers de la colère. Ta bouche est un sourire cassé. Ça y est, je ne sens presque plus tes doigts. Ma salive coule le long de ma joue. Mes yeux piquent. J'ai la tête qui tourne.
Tous des textes très forts, hein, comme vous aviez dit. Et moi, je me pose la question, comment vous êtes arrivé à une qualité d'écriture telle à arriver, oui, vraiment à tirer l'émotion
Moi, je chaque crois, lecture. Je crois que nous sommes tout simplement doués. Voilà.
Et puis, je crois aussi que si on aime écrire, d'abord, si on va dans un collectif d'écrit, c'est parce qu'on aime écrire et que c'est peut-être une façon de se stimuler. Et je trouve d'ailleurs que le groupe apporte énormément parce que d'abord, on a toutes ces discussions sur le sens des mots, parce que souvent, on n'en voit qu'un alors qu'il y en a des tas. Il y a des tas de sensibilités différentes qui peuvent s'exprimer. Et tout ça est très enrichissant. Et je crois que c'est comme un terreau qui fertilise un peu notre imagination et notre façon d'écrire. Mm-hmm.
Donc le collectif est un terreau. Oui, et donc, oui. Quand vous vous réunissez, vous n'écrivez pas toutes ensemble.
Non, pas du tout.
Quel est le processus de création ?
En fait, donc, ça, c'est ce qui est vraiment très différent d'un atelier d'écriture. Même si on a eu la chance d'en faire un dans le cadre d'une de nos réunions. Mais donc, lors des réunions, on discute effectivement du choix du thème, on discute de la façon dont on va aborder ça. On discute aussi de comment est-ce qu'on va les lire après ces textes, qu'est-ce qu'on attend des commentaires des autres, qu'est-ce qu'on a envie de... Mais on travaille chez soi. Donc, comme on avait une réunion une fois par mois, on savait que pour la réunion suivante, ce serait bien d'amener notre texte pour pouvoir le lire et avoir les commentaires des autres. Mais donc on écrit à la maison, effectivement.
Mmh. Et quand est-ce que vous décidez de finaliser et puis de publier vos textes ? À un moment donné, qu'est-ce qui vous fait dire que ça y est, c'est fini ? C'est prêt ?
C'est Jean-Louis Aubert.
On peut en tout cas dire qu'on a quand même, on peut saluer Irma et Dominique qui sont là aussi pour tenir le processus.
Ouais, c'est les gardiennes du
collectif d'écrit, parce qu'on suit quand même une démarche et un processus avec des étapes. Je me souviens d'ailleurs du jeu de piste un peu qu'on a fait par terre en montrant les différentes étapes où on devait essayer de comprendre dans quel sens. Donc on a des étapes où on sait qu'on avance petit à petit et elles gardent vraiment, on va dire, le cadre et le canevas qui nous permet nous, de nous amuser et de vraiment profiter des réunions. Donc voilà, on sait qu'on arrive plus ou moins dans telle étape vu qu'on les a vus avant, on a abordé le processus avant.
C'est ça, donc il y a un processus, on va dire, type ou standard
qui est proposé.
Proposé, voilà.
C'était très structurant parce qu'on voit un peu le début, le milieu et la fin. Et donc, ça rassure par rapport justement au fait qu'on sait d'où on part, vers où on va et un peu par quel chemin on va passer. Après, je veux dire, on est des femmes sauvages. Donc, il y a des endroits où on s'est un peu attardé, des étapes qu'on a un petit peu sautées parce que ça nous intéressait moins. Donc, voilà, il reste. Enfin, on garde une spontanéité par rapport au processus et qui est chouette parce que justement, déjà le processus en lui-même est créatif et ouvre à la créativité du groupe. Mm-hmm. Et c'est ça que moi j'aime bien et que j'avais déjà aimé dans le premier. Un homme sauvage nous arrive en studio.
Le troisième homme. Voilà, le troisième homme est trouvé. Irruption de la prochaine émission, probablement, dans le studio.
Moi, je voulais quand même ajouter quelque chose. C'est que, certes, il y avait un processus, il y avait un canevas, mais on a eu quand même une liberté totale. On ne s'est jamais senti enfermé dans ce processus, dans ce canevas.
Pas soumise.
Non, absolument pas.
Les femmes sauvages.
Jamais.
Mais un petit peu quand même, gentiment guidée. Et c'est vrai que du coup, c'était chouette parce que je crois qu'il fallait aussi qu'on avance un petit peu. Hein. On aurait pu se perdre aussi dans nos travers et nos débats. Et donc c'était quand même chouette.
Et quand on voit des personnes comme Alia, par exemple, c'est tout à son honneur d'ailleurs, qui n'est jamais contente de ses textes. Alors elle les réécrit. Et finalement, je crois que, notamment avec la date butoir du 8 mars, elle s'est dit « flûte, il faut que j'abandonne ». Et c'est pas plus mal parce que son texte est vraiment très bon, à mon avis. Et c'est étonnant parce que quand on voit Maalia, qui est une personne très posée, etc., elle a écrit un texte, alors là, avec un bel assassinat et tout. Enfin, c'était super.
Mais c'est vrai que le lâcher-prise de Maalia était pour moi très bluffant. Je crois que c'était le truc le plus bluffant du collectif, en tout cas, que moi j'ai vécu parce que. Enfin, on la connaissait pas dans cette écriture-là du premier truc. Enfin, Tatiana et moi, on était dans la première saison, comme dit Patricia. Previously on The Walking Dead. Et franchement, elle a été épatante. Et justement, cette urgence, et à un moment de cette date du 8 mars qui a été décidée un peu comme ça, voilà, qui l'a poussée à être dans la spontanéité, à être dans une espèce de viscéralité d'écriture qui lui va vraiment comme un gant. Quoi.
Et on peut dire qu'on a eu droit au suspense jusqu'au bout avec Sephora.
Mais Sephora, oui. La telle écrit.
Qui nous a gardé effectivement... le texte jusqu'à la fin, ouais. Donc c'est vrai qu'effectivement on avait toutes des
et qui a ajouté la note burlesque, quoi. Elle a un côté burlesque qui est magnifique, quoi. Sephora, je te salue, ma biche. Je te remercie pour de nous faire rire.
Et maintenant, peut-on déjà lire votre compilation en ligne sur le site?
Non, pas encore.
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est prévu. Il est également prévu, me semble-t-il, une compilation version papier.
Mm-hmm. Fin mai, je crois.
Oui, on doit préparer, on doit encore travailler.
Vous allez encore vous rencontrer. Donc. Oui.
Et donc, jusqu'à présent, il n'y a que le public de la bibliothèque d'Ixelles et celui du 8 mars.
Radio est libre.
Et alors, oui, évidemment.
Les privilégiés, on
voilà. Voilà. Donc, patience donc. Et pour compenser cette attente et vous mettre un petit peu quand même... l'eau à la bouche, nous allons entendre encore un petit texte ou bien... Non, on n'a plus de texte.
Bon. Oh, on en a encore tout
oui,
plein.
Moi, je veux bien encore citer l'un ou l'autre. J'en ai une cinquantaine, donc on peut passer la nuit si vous voulez. Mais bon.
Encore 2 minutes. Alors, 2 minutes d'haïku.
Alors, 2 minutes d'haïku. Dame, la cinquantaine, pour libérer bêtes et dragons, cherche clé intime. Et un dernier, peut-être pour la route. Recto, verso, perso, miroir brisé ou plutôt éclat de peau fripé. Voilà, ouais. Le reste, ce sera par écrit.
Si encore de la place pour un, il y en a un. J'aime bien, que Patricia m'avait donné et que mon fils voudrait bien avoir comme épitaphe le jour où je mourrai. Mais là, on va discuter les droits d'auteur. Hein. Grand-mère révolte, mère fière et féministe, fille de liberté.
Magnifique.
Alors, je vais en sortir un dernier que j'aime bien parce qu'il est positif. Et bon,
un dernier pour la route.
Chez moi, c'est rare quand c'est positif. Donc, bon. Allons-y. Il faut que je le trouve.
Où est-il?
Mais je dois chercher dans les 50.
C'est un haïku coquin, tout comme Patricia.
C'est pas un coquin, celui-là. Je veux bien en sortir un coquin, hein, mais...
C'est difficile de trouver du positif, apparemment.
Oui, ils sont rares. Bon, mais je ne le trouve pas, le positif, donc un coquin.
Oui.
Bécassine gémit de désir. Elle saisit son parapluie pour rampe de lancement.
Moi, j'avais peut-être juste... Pour finaliser, j'avais juste envie de dire aussi que c'était vraiment un moment super fort et super chouette parce que dans les textes de chacune, on est plus ou moins, enfin, on a demandé la participation des autres. Et moi, il y avait un extrait dans mon texte qui a été lu par les autres sept mères solaires. Et voilà, je voulais vraiment les remercier pour ça aussi parce que c'est vrai que ça donne une dimension. On ajoute des choses. Et dans le commentaire qui avait été dit sur la soirée en disant que les femmes sauvages sont solidaires, moi, j'ai vraiment découvert ce que c'est une vraie solidarité autour de quelque chose d'artistique, de créatif qui nous plaît toutes. Et voilà, je ne m'attendais pas à ce que cette expérience aboutisse à ce genre de choses. Donc, merci beaucoup, les sept mercenaires.
Et on recommence ?
Oui.
Mais
justement, donc une fois que cette compilation sera réalisée, quel est le programme ? Avez-vous envie de vous réinscrire pour la saison 3 ?
Moi, ça tombe sous le sens.
Pour moi, c'est une évidence.
Oui,
je pense que oui. on va peut-être d'abord terminer ce qu'on a commencé. Hein. Il est peut-être question aussi quand même de pourquoi pas faire une deuxième lecture mise en scène de nos textes à la bibliothèque. Donc, tenez-vous informés sur la page de la bibliothèque d'Ixelles ou sur la page Facebook, ça peut être intéressant.
Ainsi que sur le site Scriptalinéa, certainement.
Oui. Eh bien, moi, je voulais simplement dire que si un impresario nous écoute aujourd'hui, je crois qu'on est toutes d'accord pour partir en tournée aussi. Hein.
Ah non, pas moi.
Tatiana, non.
C'est trop dur.
Pour un prochain parcours d'écriture, les auditrices et auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient éventuellement vous rejoindre, quelles sont les conditions pour faire partie de votre collectif d'écrit? On a compris que vous cherchez des hommes.
Des biceps plus les manches.
Des conditions.
Conditions, pas de conditions.
Il n'y a pas de conditions. L'envie, moi j'ai envie de dire l'envie. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on bah, s'est beaucoup posé la question au début, est-ce qu'on va être disponible, etc. On a quand même réussi à trouver un moment pour tout le monde. Donc voilà, moi j'ai envie de dire l'envie surtout, l'envie d'une belle expérience.
Et donc contactez Irma Bouyati ou Dominique Boves et vous pouvez les trouver au comptoir de la bibliothèque francophone d'Ixelles, rue Mercelis, numéro 19. Voilà, et tout doucement, on s'achemine vers la fin de notre émission. Du côté de Script Alinéa et des autres collectifs d'écrit, plusieurs rendez-vous nous mènent jusqu'à l'été. Sachez tout d'abord que si vous avez envie de créer, nous ne sommes plus donc dans la participation simple, mais dans la création d'un collectif d'écrit dans votre région, dans votre commune, dans votre quartier, c'est possible. Et vous pouvez dès à présent vous inscrire à la prochaine formation donc de création de collectif d'écrit qui se donnera à Bruxelles les 27 et 28 juillet de 10h à 16h30. Et toutes les infos, modalités d'inscription, etc. sont bien sûr sur le site www.collectifdécrit.org. Le 7 mai, Script Alinéa participera à la fête de l'Iris, la fête de la région de Bruxelles-Capitale. Et les écrivains, écrivantes des collectifs d'écrit bruxellois vous offriront des lectures et animeront des jeux d'écriture. Vous y serez, j'y crois, je crois, les sept mercenaires.
Oui, on va se débrouiller.
Voilà. Ensuite, le 13 mai, à la Vieille Chéchette, c'est un bar bibliothèque bouquinerie engagé à Saint-Gilles. Le collectif de la Ligne 10 vous présentera ses textes sur le thème du regard. Ça se passe donc le 13 mai. C'est un quel jour le 13 mai? Le 13 mai. Est-ce que j'ai l'info ici? Non. Voilà, je ne sais pas quel jour est le 13 mai.
C'est à dimanche peut-être.
À 17h, en toute façon, à 17h, le 13 mai, à la Vieille Chéchette, rue du Monténégro, numéro 4 à Saint-Gilles, à Bruxelles. Pour toutes autres infos utiles et agréables, n'hésitez pas à consulter le site internet de Script Alinéa, des collectifs d'écrit. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, www.collectif.org. La prochaine émission des livres pour dire aura lieu le 24 avril, le jeudi 24 avril, de 18h à 19h. L'émission de ce jour sera rediffusée le 6 avril aux mêmes heures. Puis je tiens à remercier vivement nos invités, nos charmantes invités, d'avoir répondu aux questions, d'avoir livré en avant-première quelques extraits de leur recueil « Femmes sauvages ». Il y avait donc Laurence, Sophie, Patricia et Tatiana. Merci à Tamara qui a assuré la technique aidée par Hannibal. Au revoir à toutes et à tous. Et bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.